Et au cours des prochaines minutes, on aura l'occasion de s'entretenir avec le professionnel de golf Dave Lévesque, son coup d'œil sur le US Open qui est en cours. Justin Thomas domine à moins 5, Patrick Reed à moins 4 pour les gens qui veulent savoir ce qui s'est passé avec Tiger aujourd'hui. Il est à plus 3, ça a l'air bien loin comme ça, oui, c'est à 8 coups du meneur, mais c'est aussi vrai pour Dustin Johnson à plus 3, Justin Rose, Phil Mickelson, plus 9 aujourd'hui. Oh, que ça a dû être difficile de compléter cette ronde de golf-là. Donc, Dave sera avec nous dans les prochaines minutes. André Tourigny également, entraîneur-chef de l'équipe canadienne junior pour le prochain championnat du monde, nous parlera du fait qu'on a décidé du côté des organisateurs de tenir, de présenter l'événement dans une bulle à Edmonton où ont lieu une partie des séries où aura lieu la finale de la Coupe Stanley. Donc, André Tourigny avec nous dans les prochaines minutes. Toujours un plaisir d'avoir un prétexte parler de ça et d'un paquet d'autres sujets hockey avec André. Mais d'entrée de jeu, eh bien, on se tourne tout de suite du côté de notre ami Guillaume Latendresse au lendemain de la diffusion du podcast La Poche Bleue. Bonsoir, Guillaume.
Salut, Mario. Tu me fais peur un peu, là.
Comment ça?
Ben là, on va s'entretenir avec le pro de golf. C'est comme tabarouette. Pas moi, il
s'est trompé. Non, écoute.
Non, c'est vraiment pas moi le pro de golf.
Non, ben quoi que tu dois au nombre de fois que je pense que tu joues pendant l'été, tu dois commencer à avoir avec les mains d'un hockeyeur. Les gars de hockey, c'est des bons gars de golf, Guillaume. J'ai jamais joué une ronde avec toi, mais je te soupçonne de pas être méchant.
Tout ce que je dirais ce soir est que j'ai battu Maxime tout l'été.
Ah ouais, voilà, c'est vrai. Tu l'as convaincu de prendre son même deux chips, puis là, tu le fais souffrir.
Hein? J'ai juste besoin de ça, le reste.
Juste ça, c'est correct. Ça, c'est pour ça qu'on a besoin juste d'une coupe de chum. Guillaume, hier, vous aviez une coupe de pas juste une coupe de chum, mais vous aviez une histoire de famille. Les Dubois, les Couturiers, Éric Dubois, le père, et Pierre-Luc, Sean Couturier et son père, Sylvain, que moi, j'ai connu dans le temps qu'il jouait à Midget 3 quand il venait jouer à Magog. Mais Sean, est-ce que c'est un gars que tu connais depuis longtemps ou tu l'as connu en étant joueur de la Ligue nationale?
Oui, je l'ai connu en étant joueur de la Ligue nationale, Sean. Un gars qui a joué aussi pour les Voltigeurs de Drummondville. Fait que c'était intéressant de discuter de toutes les facettes un peu de ce qu'on a connu à Drummondville. Lui a réussi aussi à gagner la coupe là-bas sous Guy Boucher. Fait que c'était intéressant d'avoir son opinion. Mais oui, on s'est connus. Surtout qu'on n'est pas... il est un petit peu plus jeune que moi. Là, fait qu'on n'est pas dans le même groupe d'âge. Mais c'était vraiment intéressant. Puis moi, j'ai adoré aussi le fait qu'on ait, tu sais, Éric Dubois qui est dans la Ligue américaine. Sylvain qui est depuis, je pense, 12 ans, 15 ans, GM à Batters dans le junior majeur. Mais d'avoir l'opinion sur l'adaptation, l'évaluation du hockey en tant que coach, mais aussi en tant que directeur général, moi, j'adore ça. Puis, tu sais, s'il y a une facette de la game que moi, j'aime, c'est ça. C'est l'évaluation du joueur, le talent, puis d'essayer de s'imaginer où on peut être dans quelques années. J'ai trouvé ça vraiment intéressant.
On a ressorti deux extraits sonores quand même d'une longue conversation. Dans un premier temps, on va... Puis c'est drôle parce que j'en parlais avec vous autres. J'en parlais hier, surtout avec Danny Dubé, du fait que, tu sais, on pensait que la Ligue s'en allait uniquement vers la vitesse, alors qu'on revient, je dirais pas au bœuf de l'Ouest, mais aux gars costauds qui sont capables de jouer hockey, évidemment, pour bloquer le devant du filet, pour aller des attaquants qui sont capables de, faire de l'ombrage, cacher la vue des gardiens adverses en offensive également. Et Sean Couturier, sans le dire de la même façon, est arrivé là-dessus, puis constate lui aussi que les gros gars sont devenus bien à mode dans la ligue. On écoute l'extrait, puis tu nous commenteras ensuite, Guillaume.
Ça évolue à chaque année, ça change. T'sais, on en a parlé, les deux, trois derniers champions de la Coupe Stanley, ils ont un peu gagné en étant physique, puis un peu bulliant les adversaires durant les séries. Avant ça, le Pittsburgh, c'était plus une équipe de talent qui était rapide. Fait que, tu sais, la game, elle change continuellement. Je pense que d'ici 5 à 10 ans, je pense qu'on va avoir plus de gars. On dit que la game a rajeuni. J'espère qu'elle va vieillir. À cause de moi, dans 5-10 ans, elle va commencer à être plus vieux. Mais je pense qu'on va avoir de plus en plus des équipes d'expérience plus expérimentées avec des vétérans plus vieux que... Mm-hmm. Je pense que si tu checkes l'alignement des équipes qui restent, ou même les deux, trois derniers champions de la Coupe Stanley, même chose. Hein. C'est des gars qui avec beaucoup d'expérience. Je pense à Saint-Louis l'année passée, des Beaux-Acres, puis des gars de même qui pas qui sont en fin de carrière, mais qui sont plus vieux, qui ont un rôle différent, qui jouent sur une 3. Mais ça l'aide beaucoup l'équipe. Là, un gars comme Tyler Beaux-Acres sur une 3 ou un jeune qui arrive, je pense, à long terme dans les séries, ça fait une différence. Je pense qu'on va peut-être voir un peu plus la ligue vieillir là avec les années, puis ensuite ça va peut-être changer, je sais pas.
C'est vrai qu'il y a eu pendant une couple d'années, je sais pas si ça va être moins vrai là à partir de maintenant, Guillaume, mais on sentait que, tu sais, les vétérans en fin de contrat, les gars 3-4e trio, qu'il y avait même plus d'options pour eux autres. C'était fini, il y avait un jeune qui rentrait à leur place. Puis là, ben, on se rend compte que de donner des postes Queen on Beck à des jeunes, des fois qui sont pas nécessairement battus pour, c'est peut-être pas la meilleure façon de les développer pour que ça soit un atout à long terme.
Non, exact. Je pense que le mot-clé que tu as dit, Mario, c'est le long terme. Dans le sens que permettons aux jeunes de faire leur preuve, d'avoir un contrat pont, de dire « Parfait, tu fais ton contrat d'entrée. Donne-nous un contrat pont. Ça va faire 5 ans que tu es dans la Ligue nationale. Après ça, on te donnera tout cuit dans le bec. On te donnera le gros contrat qui te permettra après ça d'enlever peut-être le stress puis d'avoir ton avenir safe. » Tu sais, mais quand on regarde l'opinion de Chante, puis moi, je trouve ça bon parce qu'on veut d'un côté on regarde les Islanders, on regarde des clubs comme ça où on ferme le jeu un peu plus. C'est pas une équipe qui a beaucoup de jeunes, là, les Islanders de New York. Là. Oui, on a des Barzal, mais même des Eberle, c'est des gars que ça fait longtemps qu'ils sont dans la ligue. T'as des Brassard, des Pajot. On est allé chercher des gars de rôle un peu plus âgés. Même tu regardes un club comme Vegas, c'est un club qui a de l'expérience. Un club comme Dallas, on est allé chercher Pavelski, Corey Perry. On est allé chercher des gars d'expérience. Fait qu'on voit qu'il y a un peu une facette du jeu qui revient, dans le sens que les gros bonhommes, oui, d'un côté, les gars d'expérience, puis quand arrive le crunch time, le moment payant, t'es toujours mieux d'aller avec un gars qui a déjà fait ses preuves, que tu sais à quoi t'attendre, puis tu donneras la place aux jeunes dans les années à venir. Mais pour moi, j'étais 100% d'accord avec Sean Couturier. Tu sais, un jeune va faire des erreurs, un jeune, puis c'est correct, je pense qu'il y a une transition, chaque équipe doit se rendre à un point où tu permets à un jeune de faire des erreurs, puis peut-être de te coûter des matchs. Mais je pense que chaque équipe est dans une situation différente, puis on doit être capable d'évaluer justement ce fameux... je pense que c'est une zone grise un peu à avoir, mais je pense que plus qu'on va voir des joueurs âgés ou d'expérience, ça va être intéressant.
Là. Je dis pas que ça vient défaire le mythe que ça se construit juste par le repêchage, une équipe gagnante, parce qu'ils en ont repêché des joueurs qui jouent pour eux autres, les Islanders, dont Anthony Beauvillier, là, mais à 22 ans, t'as raison, c'est leur plus jeune régulier. T'as Bellows, donc Bellows, ça joue pas, fait que c'est Beauvillier le plus jeune à 22 ans. Alors, on peut pas dire qu'ils font rentrer trop vite. Quoique Beauvillier, ça fait quelques saisons qu'il joue là, mais c'est ça. Alors, un âge moyen assez élevé. D'ailleurs, tu sais que les 4 derniers finalistes avaient la moyenne d'âge la plus élevée. Dallas étant l'équipe la plus vieille, ouais. Le groupe d'âge là, le plus élevé de toute la ligue. Tu sais, des fois, c'est pas si évident que ça. Des fois, c'est des décimales de différence, là. Guillaume, tu sais, les moyennes d'âge, faut faire attention à ça. Mais oui, effectivement, c'est des gars qui ont des vétérans dans les deux cas, là.
Ouais, puis c'est pas juste de rentrer des vieux. Tu sais, dire, ah, le gars, il est vieux, il a de l'expérience.
Ben non.
C'est pas ça non plus. Tu sais, quand on regarde la qualité de vétérans qu'on a rentré, si je prends les Golden Knights de Vegas, on s'en va avec un Stachny, on s'en va avec Mark Stone, on s'en va avec Max Pacioretty. C'est des gars qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, mais c'est des gars qui ont un hockey IQ exceptionnel. C'est des gars qui ont une qualité d'adaptation exceptionnelle. T'sais, fait que pour moi, j'ai pas ce problème-là. Même chose des joueurs qu'on parlait hier de Tampa Bay en défensive, des Luke Shen, des Bogosian. C'est pas les plus rapides, mais ils réussissent par leur intelligence, leur positionnement sur la patinoire. Puis quand t'as des attaquants qui sont rapides, ben peut-être que leur faiblesse, on les voit un peu moins, ces deux gars-là, parce que tu joues avec un gars comme Kucherov, là, je peux te dire que si tu manques ta passe à Kucherov, parce qu'il vient quasiment à chercher dans tes shorts, là. Fait que si t'as manque, c'est parce que t'as un méchant problème. Fait que je pense qu'il y a des systèmes de jeu puis des joueurs de talent qui vont venir aider ces vétérans-là, peut-être en perte de vitesse, mais qui vont venir justement, tu sais, quand tu regardes un Corey Perry, un Pavelski, c'est plus la vitesse qu'il y avait il y a 10 ans. Mais il reste qu'en jouant avec des Eskanen, des Klingberg en défensive, qui bougent la rondelle, qui rentrent dans le jeu, qui sont comme un quatrième attaquant. Je pense que c'est là que tu vas réussir à avoir le meilleur de ces vétérans-là qui sont peut-être sa pente descendante.
Vous avez abordé un paquet de sujets avec Sean. Un des sujets que vous avez abordé, ce sont les statistiques avancées. Les stats avancées font bien paraître un gars comme Sean Couturier d'habitude. Puis on va l'écouter, lui, nous entendre exprimer comment il se voit à travers les stats avancées.
Mm-hmm. Ouais, moi aussi, j'ai un peu cet avis-là. Je pense que je suis bon là, dans stats avancées, mais je suis pas un gros croyant en ça. Je pense qu'il faut que tu y ailles à l'œil, tu vois les petits détails, je pense que c'est des choses qui s'apprend pas, que tu vois pas sur un stat sheet. Puis aussi, je pense que comme vous l'avez dit, un bon gars dans la chambre, des gars de caractère, je pense que aussi ça, c'est quelque chose qui, c'est pas d'un stats avancé. Il y a beaucoup de... C'est un outil parmi tant d'autres, puis ça devrait jamais être l'outil principal, je pense.
On comprend donc que même si ça le fait bien paraître, lui, il bâtira pas son club en s'appuyant là-dessus, comme Sheikol le fait avec les Coyotes de l'Arizona, là, avant de démissionner récemment. Toi, Guillaume, autant dans le hockey midget 3A ou que quand tu observes la Ligue nationale, là, les stats avancées, es-tu un fan? Ça te révèle-tu beaucoup d'infos importantes?
Nous autres, on n'a peut-être pas les ressources pour avoir des stats avancées.
Ouais.
Mais il reste que quand même, moi, je regarde pas ça du tout. C'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Tu sais, au final, là, puis Sylvain, là, peut-être son était moins bon, c'est pour ça qu'on l'a pas réussi à l'entendre, mais le père Achande l'a dit très bien hier dans l'exercice, tu sais. Au final, ça reste qu'on joue sur 200 pieds, de long, 85 de large, on est 5 chaque bord, un goaler, 4 arbitres, puis tu sais, la game, elle reste la même. Fait que l'évaluation qu'on fait d'un joueur, moi, je reste sur les paramètres de base. Il reste, c'est quoi? C'est l'attitude, c'est le IQ, c'est la vitesse, c'est ces choses-là. Puis par la suite, tu vas être capable d'évaluer le joueur. Tu sais, la meilleure façon pour moi d'évaluer un gars, c'est de le voir en vrai, c'est de le voir sur des vidéos, c'est d'être capable de voir son style de jeu dans différentes situations de match, dans des matchs qui sont importants, dans des matchs de série, dans des matchs numéro 7. Moi, c'est comme ça que j'évalue un talent, c'est comme ça que j'évalue un joueur, qu'il soit le meilleur d'un stats avancé puis qu'il finisse avec 0 but, 0 passe, ça me change rien qu'il soit le meilleur d'un chip dans vite ou tu sais. Fait que pour moi, là, je pense qu'il y a des points clés, il y a des statistiques qui sont super importantes. Puis je pense que c'est rendu, les statistiques avancées, une mode médiatique peut-être un peu plus même que ce l'est pour les équipes puis les dirigeants. Oui, John Chaika a fait sa carrière là-dessus, mais on se retrouve que c'est tellement difficile aujourd'hui d'avoir des statistiques, d'avoir des quotes ou d'avoir des segments, des moments avec des joueurs en privé pour avoir des entrevues de fond, que là, on se retrouve qu'on doit aller chercher vraiment des choses qui sont différentes puis qui vont amener la personne qui lit ou qui nous écoute à aller ailleurs. Puis je pense que c'est là que les médias ont pris ces statistiques avancées-là puis réussissent à se faire une caractéristique externe dans le sens que c'est un plus-value.
Ça te donne du contenu. Exactement. Si c'est bien fait, ça peut te révéler des choses et effectivement, ça peut alimenter un paquet d'articles.
Exact.
C'est vrai que c'est difficile de plus en plus d'avoir de l'information de l'interne. Il reste qu'il y a des organisations qui ont cru à ça très, très fort, Guillaume, là.
Oui.
C'est pas une invention médiatique.
Non, c'est pas une invention médiatique, c'est une invention des équipes, je suis 100% d'accord, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus utilisé au niveau médiatique, mais comme dans tout...
Parce que tu veux dire que les gars de hockey s'en sont détachés après avoir regardé ça plus proche?
Honnêtement, je pense que... Je pense que c'est une mode, Mario, comme la vitesse. À un moment donné, c'était juste la vitesse. Là, on voyait plus de delay en entrée de zone. On voyait plus de Kovalev qui ralentit le jeu. Là, c'était du hockey collège américain, là, up and down, où ce qu'on se passe pas la tête. Puis le hockey, pour moi, il y a 4-5 ans, c'était pas le plus beau. Aujourd'hui, on revoit un peu plus de vétérans, on revoit un peu plus de jeux ralentis. Je pense que les équipes ont laissé de côté peut-être un petit peu ces statistiques avancées-là pour se concentrer sur la vraie game, sur c'est quand que ça paye et c'est quoi qui est payant. Puis je pense que c'est là l'évaluation qu'on en fait. Là.
Je sais pas qu'est-ce qui fait en sorte que là, on décide de... Tu sais, parce que maintenant, on fait rentrer les gars trop vite parce qu'on n'a même pas de gars pour occuper les chaises ici. Fait qu'on les... Tu sais, on n'a pas attendu bien même donner de la glace à Kotkaniemi en rentrant dans la ligue. Étais-tu prêt? Étais-tu pas prêt? Tu sais, ça a pas été si pire la première année. Mais ce que je veux dire, ils retournaient au club école l'an 2, mais là, je parle de Montréal, mais partout dans la ligue, on a vu ça. Là. Un gars comme Maxime Lapierre ou d'autres gars là, auraient pu jouer peut-être 2 années de plus dans un contexte différent. Maxime a quitté la Ligue nationale au moment pas mal dans la vague où on était prêt à donner des postes à beaucoup de jeunes qui rentraient en se disant, regarde, on va y payer au salaire minimum, on paye nos stars le gros prix, puis ça nous prend des gars à 700 000.
L'utilité de gars de quatrième trio, là, tu sais, pourquoi Nate Thompson joue encore dans la Ligue nationale? Parce que premièrement, c'est un gars qui réussit à calmer tout le monde. C'est un gars qui est un bon vétéran. C'est un gars qui est apprécié dans le vestiaire. Mais c'est un gars qui, sur la glace, il gagne des face-offs. Il est bon à des avantages numériques. Il a une utilité. Moi, tu sais, un gars comme Max Lapierre, j'ai toujours dit, puis je m'en cache pas, là, puis c'est pas passé mon chum, puis on est parti à Poche Bleue ensemble, c'est loin de là. C'est un gars qui aurait dû jouer 15 ans à Montréal, qui aurait jamais dû être échangé, puis qui aurait dû arrêter de jouer pour le Canadien. Il y a de la vitesse, c'est un gars qui se sacrifiait, qui avait le Canadien à cœur, qui était bon des avantages numériques, qui était bon ses face-offs. Parfait, donne-y 1 million, signe-le, puis tu n'entendras pas parler de l'année. Tu lui donneras 8 minutes, il va être content, puis ça n'en prend des gars de même. Tandis que le jeune qui rentre dans la ligue, pense à son prochain contrat, pense à faire des points, pense à emmener des statistiques, ce qui change la game un petit peu. Mais ces vétérans-là de quatrième trio, pour moi, troisième, quatrième trio, qui ont de l'expérience, qui viennent calmer le jeu dans un vestiaire, je trouve ça super important.
Dirais-tu qu'en raison des situations contractuelles que veut pas, par la nature des choses, que les vétérans vont avoir plus de facilité à être des joueurs d'équipe et sacrifier pour l'équipe qu'un plus jeune?
Ben, je pense.
Sans généraliser à tout le monde, là.
Je pense que t'arrives à un certain point dans ta carrière où t'acceptes des choses pour rester dans la ligue. Ça, je suis 100% certain. Quand tu rentres à 21 ans, à 19 ans, à 18 ans, tu le vois pas le parcours que t'as à faire pour te rendre où tu veux aller. Tandis que quand t'es rendu à 32, 33, 34, tu sais qu'il t'en reste 2-3 ans. Tu vas l'apprendre, tu vas le prendre le tu sais, Patrice Brisebois, quand il était à Montréal, son premier parcours, il est allé à l'Avalanche, il est revenu à 37 ans, je pense, chez nous. Moi puis Max, on était des kids dans le vestiaire. On regardait un gars comme Patrice Brisebois. Je pense qu'il a été 7 ou 8 matchs sans jouer. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était sur la glace à tous les jours, travaillait super fort. Puis dans le vestiaire, jamais on a réussi à voir que ce gars-là était en tabarouette puis qu'il était fâché de la situation. Lui, tout ce qu'il disait, c'est « je vais travailler, je vais être prêt ». Mais ça, quand t'as un gars de même dans ton vestiaire qui accepte des choses que plus jeune, il n'aurait pas accepté, mais rendu au stade qu'il était, je peux te dire que ça donne un méchant message à tous les autres en dessous qui chialent parce qu'il n'a pas été les 40 secondes sur l'avantage numérique. Ça prend des gars de même qui ont de l'expérience, qui ont du vécu puis qui acceptent d'embarquer là-dedans. Puis je pense qu'à des vétérans, c'est fait pour ça.
Ouais, c'est excellent quand tu nous fais entrer un peu dans le vestiaire, même si c'est un vestiaire d'une année antérieure, pour nous permettre de s'imaginer, tu sais, comment vous vivez de l'intérieur. Puis à un stade différent de sa carrière, Philippe Danault, c'est un peu ça qu'il a dit récemment. Lui, je veux dire, il est sur le point peut-être de signer le contrat le plus important de sa carrière. Puis il veut jouer de façon à ce que ça valorise ce qu'il pense qu'il peut devenir et ce qu'il est dans la ligue. J'ai hâte de voir comment ça va finir dans son cas.
Puis mon opinion là-dessus, moi je suis 100% d'accord avec ce que Philippe a dit. Puis au final, le problème vient exactement de dire ce que tu disais tantôt, Mario, quand on a parlé de Kotkaniemi, qui a eu une opportunité peut-être plus vite qui était supposée parce qu'on manquait peut-être de profondeur. Mais si Philippe Danault, ça fait 3 ans qu'il performe comme centre numéro 1, c'est parce qu'on n'avait pas un deuxième pour venir le challenger puis prendre sa place. Il a réussi à emmener son nom, son statut à ce niveau-là. Ben quand arrive le temps d'être payé, puis d'avoir le long terme, puis d'avoir la garantie pour le reste de sa vie, ben il vient un certain moment donné que t'as beau aimer l'organisation, aimer la ville, ben il vient un stade pour moi que tu dois penser à ta carrière, que tu dois penser à ton avenir. Puis je pense que Philippe est dans cette situation-là en ce moment. C'est plate si on le perd, mais d'un autre côté, côté joueur business, je comprends très bien la décision de Philippe. Puis je suis content qu'il ait fait un statement des médias, puis que ça soit public.
En un mot, au même prix, même durée de contrat, Pageau ou Danault?
Et tabarouette. Hey,
bon, allez, tu vas me répondre la semaine prochaine, je suppose?
Je suppose aussi.
Salut, Guillaume. Salut, on vient avec André Tourigny. Salut, Guillaume. Merci.